Eh, hey, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guznés m'appellent le chair. Les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représente Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non ? PDG, let's get it !
We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. Le chairman.
De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir une championne. Chanteuse, ghostwriter, mais surtout femme de cœur. Celle que l'on nomme Vita.
Vita,
comment tu vas?
Bah écoute, bonsoir, je suis ravie, enchantée. Ça va top. Je suis ravie d'être là. Je suis fan, hein. Je regarde tout. Je te l'ai dit.
Tout le plaisir est pour nous, Vita. Merci d'avoir accepté l'invitation. T'es une championne et j'exagère pas quand je le dis, Vita. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Du moins, le peu de personnes, mais c'est comme ça ici.
Eh bien, écoute, on m'appelle Vita, c'est mon nom de scène. Mes plus proches me connaissent sous le prénom Charlotte. Mm-hmm. Je l'ai révélé depuis peu. C'était difficile d'ailleurs pour moi d'en parler. Je me suis un peu... forger une carapace avec derrière mon nom de scène, Vita. Et voilà, et je suis auteure, compositrice, chanteuse, artiste, mais aussi maman, femme avant tout. Et voilà, et ça fait maintenant 15 ans que je fais ce métier publiquement, mais j'ai démarré dans l'ombre de plein de grands artistes. J'étais choriste, j'écrivais pour d'autres. Et puis ça a démarré vraiment en 2007 avec mon premier album. Et puis depuis, je suis là, je me bagarre et je suis toujours là.
Magnifique, Vita. On va retracer le parcours, la petite vie, forcément. Alors, moi, je veux que tu nous parles de Lyon, de ta jeunesse. Okay. Elle ressemblait à quoi, la jeune Charlotte? Parce que Vita n'avait pas encore pris le micro.
Ouais, écoute, je l'ai dit dans mon premier album, c'est vrai que je dirais une enfance agréable, plutôt agréable, très équilibrée. J'ai eu vraiment un modèle, moi, parental, qui après m'a définie aussi en tant que femme. Et je crois que c'est ce qui fait que j'ai jamais pété les plombs. Je suis quelqu'un d'assez terre à terre, d'assez casanier. On me le dit tout le temps, on me le reproche même. On me l'a même reproché dans une carrière. Parce que finalement, c'est un métier où parfois il faut être bling, parfois il faut être showbiz. Et c'est tout ce que j'étais pas et ce que je suis toujours pas. Donc j'ai eu une enfance assez saine, assez banale. Pas du tout dans le milieu urbain. Moi, j'ai grandi en pleine campagne, à l'ouest de Lyon. Mais vraiment, quand je te dis la campagne...
C'est quoi le nom?
Mon village s'appelait Chevinet. Okay. C'est un village où il n'y avait même pas de commerce, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, j'ai vraiment grandi dans un petit coin paumé et je me dis qu'il y a un destin parce que je n'étais pas prédestinée finalement, tu vois, à faire ce métier, à être connue, à réussir. Je me suis bagarrée, je crois qu'il y avait un chemin et puis je suis allée chercher un peu les clés. Mais je me suis construite finalement de façon très solo. Je suis partie très jeune de chez mes parents. À 17 ans, j'ai pris mon indépendance, j'ai eu mon bac, j'ai pris mon appart. Et je crois que j'ai compris rapidement que la vie, c'était pas facile. J'ai vu mes parents beaucoup se bagarrer parce que voilà, on roulait pas sur l'or. Et je crois que très vite, très jeune, et j'ai eu cette espèce d'instinct de détermination de « je vais me bagarrer, quoi. Ce sera pas facile.
Mm-hmm. » Et vous étiez issu d'une famille modeste ?
Et famille très modeste. J'ai un père qui travaillait de 7h du mat à 22h. Moi, j'ai des souvenirs avec mon père. Il rentrait le soir et je le croisais le matin quand il partait. Je partais même pas en vacances avec mon père. Et une maman qui s'occupait de nous. Ma mère, c'est la maman italienne par définition. Donc voilà. Mais ouais, moi, j'ai vu mon père trimer, en fait. Trimer pour nous. Et du coup, je crois que inconsciemment, j'ai vu mon père beaucoup travailler. Donc moi, très jeune, j'ai eu envie aussi de travailler, de gagner des sous. À 14 ans, je commençais à travailler, à gagner un peu de sous. J'ai eu une espèce de passion pour les États-Unis. Je gagnais des sous pour m'économiser, pour aller rejoindre mon oncle qui vivait là-bas. Je partais l'été là-bas en vacances et je rêvais secrètement de m'installer là-bas. Et je me disais plus tard, quand j'ai commencé à faire de la musique, si ça marche pas, j'irai m'installer là-bas, tu vois. Et j'avais ce rêve un peu américain. qui a été, après aussi, qui a fait partie de mes influences, même dans la musique, dans mes influences, que ce soit les artistes que j'ai écoutés, que ce soit sur scène, que ce soit les artistes qui m'ont fait rêver. Je crois que vraiment, j'ai eu beaucoup cette inspiration américaine. Et à la fois, ma maman n'écoutait que de la chanson française. Donc, en fait, vraiment, c'est un mélange de tout ça à la maison qui m'a définie après en tant qu'artiste. Ouais.
C'est magnifique. Et très tôt, tu disais que tu étais aussi sous la houlette de ton frère qui te protégeait pas mal, que ouais. tu regardais avec de grands yeux,
comment
etc.
Tu sais ça.
Non, mais ça...
Je vais parler de mon frère.
Ouais, ouais, ouais. C'est important.
Ouais, bien sûr.
Donc, parle-moi déjà de cette relation. Vous n'étiez que deux.
On n'était que deux, ouais. Mon grand frère, dont je suis très, très proche aujourd'hui. Je l'étais moins pendant mon adolescence. Moi, je suis partie jeune et vraiment, j'ai un peu coupé les ponts avec tout le monde. J'étais très indépendante. D'ailleurs, ma mère petite me disait, c'est bizarre, j'ai eu l'impression que tu avais besoin de personne. J'avais vraiment ce truc où je m'enfermais dans ma chambre, je chantais pendant des heures et des heures. C'était un truc, c'était une passion et qui est née secrètement. Par la suite, après, j'ai intégré un groupe de R&B dans la région lyonnaise. Et j'allais à la MJC de Vaux-en-Velin, donc qui était un quartier complètement à l'opposé de la campagne où j'habitais. Ouais. Et je prenais le train, le funiculaire, le métro pour aller les rejoindre. Et j'ai pendant 3-4 ans, je chantais avec ces gars. On avait un groupe qui s'appelait DSV à l'époque. J'en parle jamais de ça. Mais j'ai appris en fait un peu à chanter avec eux, à placer ma voix dans les harmonies et tout avec ces mecs-là qui chantaient hyper bien. Et on a fait plein de scènes... semi-pro comme le Printemps de Bourges en amateur, enfin ce genre. C'était vraiment ça, mes premières expériences musicales. Et mon frère me couvrait quand je partais. Je sortais de l'école et je traversais tout Lyon et je disais, ouais, dis pas à maman où je vais et tout. J'allais à la MJC chanter. Et mon frère disait, ouais, elle est avec ses copines, elle révise, elle va rentrer. Il me couvrait beaucoup. Donc on a un peu ouais, développé cette relation où il me protégeait, quoi.
C'est
le grand frère, ouais.
Et on les salue au passage. Comment déjà tu t'es connectée avec les autres chanteuses qui ne venaient pas de ton coin ?
Ben, c'est vrai que moi, j'ai débarqué à Paris. J'ai commencé, en fait, j'ai fait une rencontre à Lyon qui a été assez déterminante, qui était un compositeur qui s'appelait Akos, qui avait signé avec la Koska à l'époque, avec Akhenaton, et qui travaillait beaucoup avec Dadou, de KDD. Et d'ailleurs, c'est les premières personnes artistes reconnues que moi, j'ai rencontrées à l'époque, pour qui j'ai fait des refrains, des voix sur l'album de Dadou. Et de fil en aiguille, ces mecs-là m'ont présenté d'autres artistes sur Paris, dont DJ Kost. Et à l'époque, je viens faire, on me propose de venir faire des voix sur le titre de Dadou sur Double Face 4, pour les connaisseurs.
Bien sûr, bien sûr.
Et je viens poser sur un morceau qui s'appelle Pas à Pas. C'est la première fois de ma vie que je viens dans un grand studio enregistrer. Dadou, c'est mon ami à l'époque, il me dit « je veux que tu chantes le refrain ». Et ça part de là, en fait. Et de là, j'ai fait, en fait, toutes les rencontres avec les autres chanteuses qui, à ce moment-là, étaient un peu comme moi, aux portes d'une carrière. Et puis, il y en avait qui étaient déjà là. Je pense à l'époque, Jalan, par exemple, qui était venue me voir et qui m'avait dit « t'as une voix incroyable, t'as une identité vocale et tu verras que tu vas te démarquer ». Donc, moi, à l'époque, je suis archi personne. Enfin, je veux dire, vraiment, j'ai rien sorti à part ce morceau que je suis en train d'enregistrer. Et je croise toutes ces filles... autour de cette compile, il y a des concerts qui se font genre pour présenter la compilation. Je me rappelle de Kélia à l'époque, c'est la première fois que je la croise, pareil à la cantine du Faubourg, on fait un showcase. Et voilà, et je croise toutes ces chanteuses que moi j'écoute dans ma chambre, dans ma petite chambre à Lyon. Et je suis une grande fan de R&B. À l'époque, c'est une musique qui est très difficile à défendre en France. Il n'y a pas de médias pour cette musique. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a Skyrock pour le rap. Le R&B, c'est compliqué. Hein. Nous, les chanteuses, à ce moment-là, on est entre deux eaux. T'as des médias qui sont là pour la chanson française, d'autres pour le rap, la musique vraiment urbaine. Et puis toi, quand t'es chanteuse, t'es entre les deux. Moi, j'ai souffert de ça dans le début de ma carrière et ça a duré pendant des années où, en fait, j'avais un peu le cul entre deux chaises. Et c'était le reproche qu'on m'a fait en maison de disques. Pendant 5-6 ans, on a démarché toutes les maisons de disques avec mon manager. Personne ne voulait de mon album, personne ne voulait de moi. J'avais un album qui était prêt, j'avais posé ma voix sur, je sais pas moi, une dizaine de feats avec des mecs hyper connus. Et tout le monde disait, c'est un peu la meuf du moment, mais c'est compliqué en fait, ça marchera pas en France, tu vois. Et c'est vraiment une période où nous, les chanteuses de R&B, il n'y avait pas de place.
Je vais rétro-pédaler un petit peu, Vita. Ouais. On est comme ça ici. Hein.
T'as raison.
L'école dans tout ça. Tu disais tout à l'heure que tu as eu le bac à 17 ans. Ouais. Tes parents ont mis l'accent très tôt sur les études ?
Encore une fois, j'étais hyper indépendante sur les études, donc je n'ai pas eu le besoin qu'on me pousse. J'ai continué mes études. C'était assez facile, en fait, l'école. J'aimais ça. Donc, en fait, et à la fois, j'étais hyper, hyper indisciplinée dans le sens où j'étais mal entourée. Tu vois, je traînais avec les cancres. Et à la fois, j'avais des super notes. Donc, en fait, mes parents me laissaient tranquille. Je faisais ma vie à côté parce que j'étais passionnée de musique. Mais j'ai eu mon bac naturellement. J'ai continué mes études. Je suis allée en école de commerce. J'ai fait un BTS, commerce international.
OK.
Et à la fois, je faisais des extras. Je travaillais à côté parce que j'avais mon appart. Et puis, je suis allée au bout de mes études parce qu'à ce moment-là, la musique, justement, j'avais le sentiment que ça décollerait jamais. Et puis, moi, je suis une éternelle pessimiste et je me disais, ça marchera pas, quoi. Ça reste une passion, c'est un loisir. Donc, j'avançais dans mes études et parallèlement, je faisais de la musique pour le kiff, quoi.
Mais t'étais toujours sur Lyon?
J'étais toujours sur Lyon. Je faisais des allers-retours à Paris, je passais ma vie dans le TGV. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été à l'aise à Paris. Vraiment, moi, j'étais vraiment une fille de province. Mmh. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important pour moi, la province, aujourd'hui, en tant qu'artiste. Je prends toujours le temps, moi, d'aller en province parce que je me souviens ce que ça fait quand toi, tu vis dans une petite ville et qu'il y a un artiste qui vient en concert dans ta ville. Mmh. J'allais avoir des artistes à Lyon, mais quand ils passent, tu vois, je te parle d'un plateau radio, d'un truc où tu as des artistes qui viennent de Paris.
Ok.
C'est kiffant, en fait. Tu as l'impression qu'il se passe un truc, quoi. Et je trouve que parfois, les artistes parisiens ont tendance à négliger un peu la province. Tout le monde ne va pas, en fait, en province, en promo, tu vois. Et moi, je trouve que c'est hyper important d'aller voir les gens, parce que c'est là que les gens sont.
Alors, tu disais que tu travaillais à côté. Tu faisais quoi, toi, précisément?
J'ai fait tous les petits boulots. J'ai été vendeuse pendant des années dans une jeanerie à Lyon, dans un grand centre commercial, où je suis retournée chanter il n'y a pas longtemps. Et j'étais émue aux larmes de me retrouver dans le centre commercial. Il y avait genre une tonne de gens qui étaient là. Et je me suis dit, en fait, j'ai travaillé là pendant 5 ans. Okay. Tu vois, ce centre commercial où je vendais des jeans, des baskets. Je travaillais là-bas pendant des années. J'ai été serveuse beaucoup la nuit. Je faisais deux boulots en même temps. Vraiment, moi, c'était non-stop. Hein. J'essayais vraiment de mettre de l'argent de côté. J'ai toujours eu cette fibre un peu d'avoir peur de manquer. Mmh. Et donc, je bossais beaucoup. J'ai fait beaucoup ça. Serveuse, vendeuse, j'ai été plongeuse, j'étais barmaid. J'ai fait vraiment tous ces métiers-là que tu fais quand tu as besoin d'un petit boulot tout de suite et que tu as besoin d'argent, quoi.
Mmh. Et on a besoin d'entendre ce genre de discours. Bah ouais. Parallèlement, la relation avec ta mère était très compliquée. Ça, tu le disais dans quelques interviews, etc. Ça se traduisait par quoi? C'était des clashs?
Oui, il y a eu des clashs. Bah, c'est un peu l'histoire de... Pour ceux qui ont vu mon dernier clip, je n'oublie pas, j'avais envie un peu de mettre l'accent sur... en tout cas, de faire un parallèle avec cette relation, moi, difficile que j'ai eue avec ma mère à l'adolescence. Et je n'étais pas une ado facile. On va être honnête, j'étais assez responsable aussi de ce qui s'est passé. Je crois que ma mère, il y a eu une scission quand elle a... J'étais très indépendante déjà petite, mais quand t'es petite, c'est cool, t'es un enfant, t'es mignonne, c'est pas compliqué. Puis à l'adolescence, ça devient plus compliqué. Il y a la vie, il y a le fait que tu sortes, que tes copines, l'entourage. Moi, j'avais pas de bonne fréquentation, j'ai fait des bêtises. Ce truc-là, ma mère, elle s'est sentie un peu dépassée, en fait. Et j'avais vraiment un fort caractère. Je crois que si j'avais pas eu mon père, j'aurais pu basculer. Et j'ai eu un père qui était pas souvent là, qui était à la maison quand il rentrait, quoi, après le boulot, mais qui était très autoritaire. Et à l'époque, je l'ai vécu de façon où tu le vis comme une injustice. Mais en vérité, et c'est pour ça que je pense qu'il faut un cadre quand on est parent, l'autorité, c'est super important. Moi, je le vois aujourd'hui avec mes enfants. Il faut qu'il y en ait un dans les deux dont l'enfant, pas a peur, mais il sent qu'il y a un cadre et qu'il y a une limite, en fait. Et moi, j'avais besoin de limites. Et en fait, ma mère était tellement cool qu'elle sentait que j'avais peut-être un caractère encore plus fort qu'elle. Donc, des clashs, ouais, beaucoup de clashs. Et puis, je pars à 16 ans, je lui dis que je vais partir. À 17 ans, je pars, quoi. Aujourd'hui, moi, en tant que mère, je me dis, est-ce que mon fils, je laisserais partir à 17 ans? Tu vois, c'est jeune pour une fille. Bon, même si quand je suis partie, j'étais archi responsable et tout. Mais... finalement, on n'était pas proches. Je me confiais pas à ma mère. Et en fait, plus tard, par la suite, quand je me suis mariée, quand j'ai eu des enfants, on s'est vachement rapprochés. Mais une relation très compliquée, ouais.
Et ton grand frère n'aurait pas pu te reprendre de voler?
Mon frère et moi, on a eu pareil, autour de l'adolescence, vers 16-17 ans, on a pris un peu des chemins différents, on était très différents. Il voyait ma passion pour la musique, il la partageait pas avec moi, mais il me regardait. Et d'ailleurs, il me l'a dit récemment, il m'a dit, en fait, c'était déterminé, en fait. On savait que t'y allais, mais je partageais ça avec personne. On a pris un peu des chemins différents. Donc, en fait, il avait pas ce rôle de grand frère autoritaire qu'il aurait pu avoir. Il avait plus un rôle de « je suis là pour toi, si t'as un problème, je serai là ». Mais il me laissait faire ma vie, en fait. Donc, ouais, non, mon frère, on n'avait pas ce rôle-là. Moi, c'est vraiment, heureusement que j'avais un père qui était là et qui n'avait pas peur de me fixer un cadre, tu vois.
Et c'est tout à ton honneur déjà de reconnaître que tu avais aussi fauté. Ça fait partie
bien
de ton
sûr,
CV. Bien
sûr, qui ne faute pas.
Absolument, Vita. Et ton arrivée sur Paris, comme tu disais, tu rêvais secrètement hein, parce que voilà, t'es fan de Mariah Carey, t'es fan de D'Angelo, de tous ces artistes-là. Ouais, ben c'est comme ça. T'as rencontré Franck, beau gars.
Yes, Franck. Oh là, ça fait longtemps.
Exactement. Déjà, comment tu t'es connecté avec lui? C'était ton
Alors,
éditeur?
J'ai rencontré Benjamin Ifra en même temps que Franck, qui était son associé. Ils étaient tous les deux associés. Je les rencontre au moment de Double Face, qui est un peu le moment où moi, je commence vraiment à mettre le pied dedans, quoi. Et on me propose de revenir sur Double Face 5, on me propose un morceau, je rencontre Franck et je rencontre Ben. Et Ben me propose de s'occuper de moi, de devenir mon manager. Il deviendra mon manager. Et ils deviendront producteurs tous les deux, puisqu'ils sont associés. Et ils deviendront mes éditeurs. Et en fait, à ce moment-là, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Moi, sur Lyon, je travaille avec Mounir, qui est mon compositeur, Mounir Marouf, à l'époque, avec qui je fais tout mon premier album. On maquette tout ce premier album à Fleur de Toi, tel qu'il est sorti, à part qu'on l'a mixé, masterisé et un peu arrangé. Et en fait, Ben va démarcher toutes les majors à l'époque avec cet album. Et personne... les gens disent c'est cool et tout, mais bon, personne n'est chaud, quoi. Personne n'en veut. On n'arrive pas à me mettre dans une case. Ça dure quand même 5 ans, hein, cette histoire minimum, quoi. Peut-être un peu plus, avant qu'on signe avec Universal. Et voilà, et pourtant, on m'appelle beaucoup, les rappeurs m'appellent souvent, je fais des refrains, il y a pas mal de morceaux qui sortent, il y a Ne dis jamais avec Cini qui sort, l'album de Cini cartonne, le titre cartonne. Bon, jusqu'à Confession Nocturne, personne n'a envie de... Personne n'est intéressé, quoi. Et c'est Ben et Franck qui vont produire mon album, qui vont, eux, investir et dire, OK, on va le faire, nous, cet album. Et puis, à un moment donné, les portes, elles vont s'ouvrir. C'est ça qui s'est passé. Et c'est Confession Nocturne qui va mettre la lumière sur moi. Et par la suite, on va signer l'album chez Universal. Mais l'album, on l'a produit, nous, finalement.
C'est les premières personnes à avoir cru en toi?
Les premières personnes à avoir cru en moi, c'est Ben et Franck. Et Mélanie, quand je vais la rencontrer un an ou deux après, va tout faire après et va tout mettre en œuvre pour que les gens me découvrent. Et elle me dit... c'est pas possible, en fait. Elle écoute l'album, elle écoute Pourquoi les hommes, je m'en rappelle. Elle me dit, t'as une plume, t'as une voix. Elle me dit, en fait, tu verras, ça faut être patiente. On va y arriver. Et si on n'y arrive pas, c'est moi qui vais enfoncer les portes. Et elle va accepter plus tard la direction artistique du label Motown de France pour me signer. Et elle va dire à Pascal Nègre, si j'accepte, c'est Vita la première artiste qu'on signe. Sinon, je le fais pas. C'est ça l'histoire de Motown. La question que j'avais, je t'explique même pas.
Et... tu sais, moi, j'ai lu le livre de Jams.
Ah, le premier?
Absolument. Ah. Elle parlait de toi, tu sais, elle disait qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis dans le showbiz, etc. Mais que Charlotte, c'était littéralement sa sœur.
C'est ma sœur, ouais.
Au départ, tu étais sa collègue, mais tu es devenue sa sœur. Moi, déjà, je veux que tu me parles de la relation que tu as nouée avec elle, s'il te plaît.
Mélanie, c'est vraiment... c'est plus que de l'amitié. Hein. Vraiment, c'est ma sœur. C'est quelqu'un, on peut ne pas se voir pendant... Vraiment, pour moi, ça, c'est la preuve que le lien est très fort. On peut ne pas se voir pendant des mois, tu vois. Et on s'écrit tout le temps. Et quand on se voit, mais c'est comme si on s'était vu hier, quoi. Et ça, c'est à vie. On partage des choses. Je pense qu'il n'y a personne qui me connaît mieux que Mélanie, dans le fond. Elle m'a connue très jeune. On s'est connus, j'avais quoi, 17, 18 ans. Elle connaît des périodes de ma vie... sombre, en fait. Elle m'a connue dans les hauts, elle m'a connue dans les bas. Et encore plus aujourd'hui, avec le rapport qu'on a aujourd'hui, va au-delà de la musique. Les gens me disent, oui, mais elle écoute tes chansons. Mais on n'est pas là-dedans, en fait. Aujourd'hui, on est vraiment dans un rapport de sœurs, en fait. On partage nos vies de famille, nos enfants sont proches et mes enfants vont en vacances chez elles. Enfin, vraiment, c'est vraiment la grande sœur que moi, je n'ai pas eue. Je l'ai toujours vue comme ça. Je me suis toujours confiée à elle. Je lui ai toujours demandé conseil. J'ai besoin d'avoir son aval. J'ai besoin d'elle dans ma vie. Passe pas un mois sans qu'on s'écrive et qu'on se parle. Donc, et on a ce sentiment, toutes les deux, je sais pas pourquoi, mais qu'on finira à habiter à côté, on finira peut-être nos vies pas loin, parce que vraiment, il y a ce lien très, très fort. Et d'ailleurs, au Maroc, on n'est pas très loin. Donc voilà, c'est vraiment, c'est ma sœur. C'est indescriptible, ce lien.
Tu viens de dire que tu l'as considérée comme une grande sœur, mais elle disait que t'hésitais pas non plus à la recadrer sèchement. Tu vois, donc, finalement, qui est la grande sœur dans tout ça?
C'est vrai que c'est ma grande sœur parce qu'elle est un peu plus âgée que moi, mais Mélanie, quand je l'ai connue dans les grandes années, moi je l'ai connue avant qu'elle explose, et puis après j'ai été à ses côtés quand elle a été dans la tourmente, quand elle a été au sommet de sa carrière, et puis quand elle a été dans les bas. Et quand elle était au sommet de sa carrière, je me souviens qu'elle était entourée de gens qui n'osait pas lui dire la vérité. Et moi, ça, c'est un truc que je supporte pas en tant qu'être humain. Et moi, par exemple, je suis vraiment entourée de gens qui sont très, très durs dans mon équipe. Parce qu'en fait, c'est un métier où les gens passent leur temps à te caresser dans le sens du poil. C'est insupportable, en fait. Ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai jamais été showbiz. C'est vraiment un métier où les gens n'arrivent pas à te dire quand c'est naze, quand t'as foiré, quand les gens te disent tout le temps, ah, c'est génial, t'es belle, t'es super. T'es... Et en fait, à un moment donné, si tu t'entoures que de gens comme ça, tu vas dans un mur. Parce que toi, t'y crois, tu vois. Puis en fait, à un moment donné, il faut se réinventer. Et puis, il faut pas avoir peur de se dire des choses, quoi. C'est un métier qui est difficile, où tu affrontes les gens et à un moment donné, tu vois que les gens n'osent pas te dire voilà quoi, que tu as merdé ou que en fait, c'est pas bon. Et en fait, moi, Mélanie, je me souviens qu'elle avait vraiment... elle était genre hyper préoccupée par ce que les gens pensaient d'elle. Elle voulait que tout le monde l'aime à l'époque de Jams. Et moi, j'étais là pour lui dire, mais en fait, tu t'en fous, en fait. Arrête de calculer, arrête de te préoccuper de ça. Et ouais, moi, j'ai été là pour la secouer à des moments où j'avais l'impression que les gens n'osaient pas. Et je sais qu'elle... Enfin, moi, j'ai lu son livre et j'étais bouleversée. Mais c'est vrai que j'étais à côté d'elle dans des moments où... où voilà, quoi, fallait lui dire, on s'en fout, tu vois. C'est ça aussi, l'amitié.
Totalement ça. Et tu sais, elle rencontrait pas mal de gens, etc. Je suppose qu'elle a quand même rencontré des personnes qui, comme toi, brute de décoffrage, lui disaient certaines choses, certainement. Mais... qu'est-ce qui vous a rapproché comme ça? Tu sais, elle, dans son premier album, ou le deuxième, elle disait que c'était compliqué avec son ex parce qu'il était violent.
C'est vrai.
Toi, je sais que tu as eu des complications aussi avec un de tes ex aussi, qui était aussi violent, qui était un petit peu relou. Donc,
on n'a pas partagé les mêmes expériences de vie, mais il y a eu des... Il y a beaucoup de causes communes qu'on défend, qui nous touchent. Je pense qu'il y avait aussi, avant tout, quand on s'est rencontrés, il y a eu un espèce de coup de foudre humain, c'est-à-dire que c'est deux femmes de caractère en fait qui se rencontrent. Et je me souviens qu'on s'est rencontrées dans une chambre d'hôtel avant d'aller à un Planet Rap. Moi, j'avais demandé à rencontrer Jams à l'époque. Ah, c'était juste avant Brut de Femmes. Je dis, moi, je veux faire un morceau avec cette fille, c'est elle. J'écoutais les nocturnes la nuit de Planet Rap et tout, et je la trouvais incroyable et je voulais la rencontrer. Et on me dit, ouais, alors elle est à tel hôtel. Et elle m'écrit parce qu'elle a mon numéro et tout, et elle me dit, passe me voir et tout. Moi, j'étais hyper gênée, je la connais pas, j'arrive et tout. Et en fait, c'était comme si on s'était toujours connus. Je me rappelle comme c'était hier. Il y a eu une espèce d'évidence quand on s'est rencontrés comme ça. Et ensuite, par la suite, j'ai passé des nuits entières chez elle dans son appartement à Paris. On se racontait nos vies. Et oui, dans nos relations passées, il y a eu des espèces de drames, en fait, dans nos vies de femmes, dans nos vies de jeunes femmes, des espèces de choix malencontreux, voilà, qui sont des erreurs de jeunesse, mais qui te construisent aussi et qui font que on avait aussi, voilà, toutes les deux, ce besoin aussi de vivre des expériences comme ça. Je crois que ça nous a soudé ce truc de « ok, on traverse des épreuves, on se relève ». Ça, ça a été vraiment la première chose, je pense, qui nous a liés. Je crois qu'il y avait cet amour de l'écriture aussi, parce que moi, je racontais mes déboires. Mon premier album, c'est oui, bien sûr, c'est ma première histoire la plus peut-être blessante. Elle racontait ses déboires aussi. Il y a ce truc-là qu'on partageait dans l'écriture. Bah, d'ailleurs, quand on fait Confession Nocturne, c'est un peu l'histoire de cette chanson. Pourquoi absolument. Cette chanson est devenue comme ça, un espèce de classique. On est presque 20 ans plus tard. Je vois des petites de 6 ans, 7 ans qui le connaissent. Je me dis, mais comment? 20 ans plus tard. Parce que ça parle aux femmes, en fait. Ça raconte une histoire que plein de femmes ont vécue, finalement, alors que c'était un peu banal. Et voilà, c'est une histoire, c'est une chanson qui dure 5 minutes, qui n'aurait jamais dû être un hit, en fait. Et voilà, donc je pense qu'il y avait, oui, cette souffrance qu'on partageait toutes les deux. C'est ça qui a fait peut-être la force de notre lien. Et après, il y a tellement de choses, en fait, nos valeurs familiales, nos valeurs religieuses, aujourd'hui encore plus. Donc je pense que vraiment, il y a plein de choses qui font que on peut passer, nous, 7 ans ensemble, on s'est jamais pris la tête, en fait. Jamais on s'est pris la tête au point de ne plus se parler. Ça n'arrivera pas.
Merci pour cette transparence, Vita. Ouais. Je suis obligé de te lancer, tu sais bien. Et à fleur de toi, Confession Nocturne, tu sais, moi, un peu comme tout le monde, je t'ai découvert à ce moment-là. Mm-hmm. Clairement, t'as défoncé les portes. Ouais. Moi, je veux savoir, cette fois-ci, comment l'industrie t'a vu. Parce que, tu sais, le game du R&B, et je ne vais pas manquer de respect aux gens, mais il est quasi inexistant. Tu vois ce que je veux dire?
Je trouve que là, il y a une nouvelle génération où justement, elles sont en train de s'installer.
En fait, je suis en train de parler de l'époque où tu es arrivé.
Bien sûr.
Tu vois, c'était très compliqué. Et c'est pour ça que j'ai bien souligné en disant que je veux manquer de respect à personne. Mais comment l'industrie t'a vu? Parce que une blanche qui vient de province, qui connaît pas le game, qui n'a pas de relation hormis Diams, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être très compliqué aussi. Et je suppose que ça l'était.
Ah, ça a été ouais, des années, comme je te disais, ça a été très compliqué. À ce moment-là, moi, j'ai l'impression qu'on va tout péter. C'est-à-dire que je commence à entendre des titres qui passent en radio, tout le monde m'appelle, dans le game, on m'appelle, on me demande de poser ma voix sur des titres. Et vraiment, et je sens qu'il y a une espèce d'effervescence comme ça. Et de l'autre côté, je sens que l'industrie a une espèce de barrière. C'est-à-dire qu'on se mange des portes partout et j'ai des souvenirs avec mon manager Ben qui m'appelle, qui sortait toutes les semaines. Il avait un rendez-vous hein, chez Warner, chez à l'époque, chez EMI, il allait de chez tout le monde. Et il me disait à chaque fois, si tu veux, je m'accrochais à ce rendez-vous en me disant « Ok, c'est pas possible, il y en a un, tu vois. » Et à chaque fois, il m'appelait, il me disait « Écoute, t'inquiète pas, c'est pas là, mais ça va venir. » Et je me disais, c'est pas possible. Et je comprenais pas le problème. Et en vérité, le problème, c'était, c'est tout ce que tu viens de citer. C'était qu'en fait, j'étais une blanche qui voulait faire une musique qui ressemblait au R&B, à la soul. Moi, c'était ça, mes racines. Et à la fois, dans mes albums, il y avait plusieurs influences. Il y avait aussi la chanson française. Il y avait le hip-hop. Enfin, vraiment, c'était un mélange de toutes ces influences-là. À ce moment-là, dans les médias français, c'est soit tu fais de la variété, soit tu fais du rap. Quand tu fais du rap, tu vas être enfermé dans les médias urbains. Si tu fais de la variété, c'est peut-être là où tu as le plus de chances d'avoir de la visibilité. Bon, et moi, j'arrive avec un morceau qui s'appelle « À fleur de toi » à ce moment-là, qui a un espèce de beat un peu quand même, qui est sur une rythmique un peu hip-hop, et à la fois, on reprend la sonate au clair de lune de Beethoven, c'est une chanson qui ressemble à du R&B, mais on n'entend pas ça en radio à ce moment-là. Il n'y a pas de chanson comme ça en radio. Donc, personne n'en veut. Qui va diffuser ça, tu vois? Et puis, il y a Confession Nocturne qui a tout pété pendant un an. Et là, mais toutes les portes commencent à s'ouvrir. C'est-à-dire que tous les gens qui nous ont dit non rappellent Ben et lui disent « On aimerait bien écouter les titres de Vita. » Parce que Confession reste numéro un pendant des semaines et que le titre, c'est une espèce de raz-de-marée. Personne ne comprend ce qui se passe. Ils retournent voir les mêmes personnes, avec les mêmes chansons. C'est ça qui, moi, à l'époque, m'a sidéré. Je me suis dit vraiment, c'est un métier d'opportuniste, quoi. Il revient avec les mêmes chansons, le même album. Et t'as des gars qui crient au génie, quoi. Je me souviens d'avoir des mecs que je connaissais qui étaient DA à l'époque et qui te disent, sur deux rendez-vous à 6 mois d'écart, « Ah ouais, les chansons sont incroyables. » C'était les mêmes chansons, en fait, que le mec écoute. Mais le mec l'écoute pas de la même façon parce qu'il y a un antécédent qui fait qu'il y a un titre qui est en train de tout péter en radio et le mec écoute pas de la même façon. Et Ben m'appelle et me dit, tu vois, regarde, en fait, il y a un timing. Il m'a appris ce truc-là de me dire, il y a un timing, en fait, dans ce métier. Mais à la fois, moi, si tu veux, je crois que c'est là que ma détermination est devenue de plus en plus forte et je me suis dit, OK, ça va être 100 fois plus dur que ce que tu as imaginé parce que tu es une meuf. Il y avait les gens qui s'arrêtaient au physique aussi. Je l'ai ressenti, ce truc-là de OK, on va en faire une bimbo. Alors que moi, j'étais auteur, je racontais ma vie, je racontais mes histoires à ce moment-là dans mes chansons qui étaient quand même un album. C'est un journal intime à fleur de toi. Donc, on a envie de me mettre dans une case qui n'a rien à voir avec ce que je suis. Je fais 2-3 rendez-vous où justement, je sens qu'on veut m'orienter dans une direction qui n'est pas la bonne. Et voilà pourquoi je vais signer avec Diams quelques mois après, parce que j'ai besoin d'avoir carte blanche. Et moi, j'ai toujours été maître de ce que je sortais, que ce soit les réussites ou les succès ou les échecs. J'ai toujours été derrière mes choix, tu vois.
Et avec le recul, la Motown, tout cet engouement, t'aurais fait les mêmes choix?
Écoute, moi, je ne l'ai pas vécu. À l'époque, on a beaucoup parlé de ça parce que c'est Motown de France. Moi, je l'ai vécu comme un privilège. Pourquoi? Je suis une grande fan de soul. J'ai lu tous les livres sur la Motown, sur tous les protagonistes qui sont à l'initiative de ce courant. Et c'est passionnant. Et alors, à ce moment-là, Pascal Nègre propose à Mélanie le label Motown France. Elle, comme je le disais, lui dit, voilà, moi, j'accepte. C'est Vita, c'est la première artiste. Moi, à ce moment-là, je suis à des kilomètres de me dire, ça va générer une polémique, une blanche dans Motown. Enfin, je veux dire, bon, on ne prétend pas faire les Jackson 5, tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas Diana Ross. Moi, j'ai un album qui est prêt. En tout cas, j'ai un univers et je suis trop fan de cette musique-là. Je trouve quel honneur pour moi d'être la première artiste de ce label-là. Je crois que finalement, ça a mis en fait une lumière encore plus sur le label et sur l'album. Et puis après, quand l'album sort et qui rentre au Guinness Record. Enfin, à ce moment-là, moi, je suis dépassée par ce qui s'est passé, le succès de cet album, l'entrée de cet album. Moi, je n'ai jamais réalisé, aujourd'hui, je le réalise parce que ça fait 15 ans que je fais ce métier, mais à ce moment-là, tout le monde dit « Ouais, l'album va marcher !» L'album rentre et tu fais 60 000 et je me dis « Mais je ne comprends même pas, en fait, moi, ce qui se passe, tu vois. »
Et quand il y a un gros succès comme ça, comment tu fais pour garder les pieds sur terre? Moi, tu sais, je sais que tu étais, du moins à l'époque, très proche de Souir. Soussou.
Ouais, bah, comment ça me choque que tu parles, c'est mon ami, mais je t'avais qu'elle a encore une semaine.
Très bien. Mais est-ce que tu avais, hormis cette sœur, d'autres personnes qui t'aidaient justement à conserver les pieds sur terre?
Mais moi, je crois que ma force, elle est là. Je suis très sauvage. Je suis très peu entourée. En fait, moi, dans ce métier, mis à part Mélanie, et puis par la suite, Gims, sa femme, Dadjou, qui sont devenus une petite famille parce qu'on travaille ensemble. Et je ne me suis pas fait beaucoup d'amis dans ce métier. Je n'en ai pas cherché. Parce que moi, j'avais une base qui est solide, qui sont mes amis, qui sont Soussou dont tu parles. Mon amie Aurélia, avec qui je travaillais quand j'étais vendeuse, qui est toujours ma sœur, mon amie Mélanie. J'ai à ce moment-là, dans ce métier-là, j'ai Ben, j'ai Franck, j'ai mon équipe. Mais moi, à côté de ça, je ne sors jamais. Je suis quelqu'un de très casanier. Je crois que le truc de... Je ne me suis jamais même posé la question et je n'ai jamais eu le sentiment de changer. Tu sens que le regard des gens change sur toi. C'est comme ça, quand il y a un avant et un après, parce que quand il y a un gros succès et que tu as un morceau qui est numéro un partout et que tu as un clip qui est tout le temps en boucle, tu sens le regard des gens qui change sur toi. Mais moi, ce que ça a généré sur moi, c'est l'inverse. Je me suis renfermée encore plus. Et d'ailleurs, ça a été après un frein dans ma carrière, parce que c'est un métier où justement, étant donné que moi, j'étais un peu au clivage de la musique urbaine et la variété, il aurait fallu presque que je sois 100 fois plus showbiz pour que ma carrière elle, prenne une espèce de direction l'autoroute. Et en fait, moi, ça m'a tellement un peu fait peur que j'ai fait un break après mon premier album. J'ai sorti un deuxième album qui a un peu moins marché. J'ai après traversé moi, une espèce de remontée du désert, on va en parler, mais parce que moi, ça m'a fait peur, en fait. Les lumières, l'omniprésence médiatique, tout ça et tout. J'ai senti que ça, c'était pas pour ça que j'ai fait de la musique. Il a fallu gérer ce truc-là, mais c'est pas pour ça que je faisais de la musique. Moi, c'était parce que je voulais écrire des chansons, tu vois.
T'étais sur Paris à ce moment-là?
Je me suis installée sur Paris à la fin de mon premier album, pour la promo. J'ai acheté un appartement sur Lyon. Parallèlement, je redescendais à Lyon tous les week-ends. Moi, je voyais Paris comme un bureau. J'ai jamais aimé vivre à Paris jusqu'à ce que je me marie. Je me sentais seule à Paris. Dès que le vendredi soir arrivait, que j'avais pas de promo, je prenais ma voiture, je me tapais 400 bandes, je rentrais à Lyon toute seule. Je suis pas parisienne de base. Et j'ai mis longtemps vraiment à me sentir bien ici. Donc non, je faisais des allers-retours. Et après, je me suis installée véritablement à Paris en 2009 quand je me suis mariée.
Mmh. Et tu sais, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, tu as défoncé les portes avec ton premier album, etc. Moi, je veux que tu nous parles cette fois-ci parce que tu sais, moi, d'un point de vue extérieur, je sentais un ras-le-bol général. Pourquoi? Parce que Jams défonçait tout, Vita défonçait tout, Cynic défonçait tout. Tu sais, les gens, ils se disaient...
Tu veux parler de ça? Ouais, c'est vrai. Il y a eu cette polémique autour de Jams et Cynic, je me souviens.
Tu vois? Ouais, ouais. Moi, je veux savoir comment... Parce qu'encore une fois, toi, t'es venu pur dans ce milieu-là. T'aimais la musique, tu voulais en faire ton métier un petit peu, etc. Mais t'as vu aussi des phases bizarres, n'ayons pas peur des mots. Comment t'as fait pour justement encaisser les coups sans t'effondrer?
Moi, ça, en fait, bizarrement, étant donné que je suis quelqu'un quand même vraiment d'assez... on me dit t'es forte. C'est pas que je suis forte, en fait. Moi, je suis assez... Je me mets des œillères, en fait. Ouais. À un moment donné, je vais dire la vérité, en 2009, j'ai commencé à... Il y a eu tellement de... En fait, c'est simple. Quand il y a un grand succès, les gens t'adorent. Tu sors un truc, tu pètes tout... Ça y est, les gens te détestent. C'est comme ça. La popularité, elle génère ce truc, elle engendre ce truc de hater et de... C'est comme ça, c'est le jeu, en fait. Quand tu commences à le vivre, moi, je n'étais pas préparée à ça. Ça a été violent, ce truc-là. En 2009, je me rappelle, je lisais des commentaires, des trucs qui m'ont fait mal. Je me suis dit, OK, je ne crois pas que j'aurais les épaules pour encaisser tout ça. Je me suis dit, OK, j'arrête de lire, tu vois. J'ai arrêté, par exemple, Twitter, c'est un média que je ne lis pas ce que les gens disent de moi sur Twitter. Je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas, parce que je sais que c'est un média où les gens se déchaînent. Ça me fait rire, des fois, je vois des trucs passer sur plein de, tu vois, d'émissions de trucs. Ouais. Pas sur moi, forcément, mais je dis, ils sont chauds, les gens sur Twitter. Moi, je sais que je n'ai pas les épaules pour ça. En fait, c'est simple. Si tu te coupes de ça, tu ne souffres pas. Donc moi, si tu veux, à partir de ce moment-là, j'ai vu, OK, c'est comme ça. Les gens vont toujours avoir un truc à dire, tu vois. Je pense qu'il faut en prendre compte. Mais il ne faut pas se faire du mal. Moi, j'ai vu des artistes se torturer comme ça. J'ai des amis autour de moi qui s'en sont torturés. Et c'est malheureux, en fait, on ne fait pas ce métier pour ça. Donc, à l'époque, oui, je me souviens de cette polémique-là. Moi, personnellement, si tu me demandes mon avis, je la trouve ridicule, quoi. Il faut être d'une certaine couleur pour faire une certaine musique. Ça veut dire quoi? Le talent, pour moi, il n'a pas de couleur, tu vois. C'est-à-dire que pourquoi Eminem, c'est un des, le plus, peut-être le plus grand rappeur qu'on connaisse aujourd'hui, pourquoi c'est un blanc? Et est-ce que ça ne le rend pas crédible? Est-ce qu'il n'est pas légitime? Non, on ne se pose pas cette question-là, tu vois, aux US. Donc, moi, à ce moment-là, je la trouve ridicule, cette polémique. Et c'est à ce moment-là, Mélanie était touchée, que moi, je lui dis, vraiment, est-ce qu'on s'en fout, en fait? Est-ce que vraiment, toi, t'as vendu 1 million de disques, est-ce que tu t'en fous? Elle me dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, et moi, je pense que vraiment, les choses qui te font du mal, il faut en faire abstraction. Je suis plus dans un truc de m'entourer de gens qui vont me tirer vers le haut. Et pourtant, je suis dans une équipe où on est hardcore, hein, les uns envers les autres. On se dit les choses. On se parle français, on se dit, ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Cette télé-là, c'était cool, ça c'était pas bien, là, t'as pas bien chanté là. On se dit parce que je pense que c'est comme ça que t'avances. Mais par contre, faut que ce soit constructif. Se dire les choses pour se faire du mal, moi je préfère me couper de ces trucs-là.
Merci pour cette transparence, sincèrement. Et tu sais, on est dans une ère où les gens parlent de manière beaucoup plus libérée de leurs problèmes mentaux. Tu vois, là dernièrement, enfin, James en a parlé de ses soucis. On sait que Stromae était dans le dur. Kanye West en parlait aussi. Mariah Carey, je vais arrêter d'énumérer, mais je veux dire, il faudrait qu'on fasse plus de prévention peut-être. C'est sur vrai. Les dangers du métier.
Moi, je le dis
sur l'exposition à outrance.
Bien sûr. Moi, je suis archi d'accord avec ça. Je pense qu'en fait, que ce soit ce métier-là ou tout autre métier d'image, si ton but, c'est la notoriété, c'est un problème. Je pense vraiment que ça ne doit pas être une fin. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, en fait. Tout simplement, c'est difficile à gérer. Moi, comme plein d'artistes que je connais, par exemple Slimane, on partage cette passion commune. Mélanie, c'était pareil. On a fait de la musique parce qu'on était passionnés d'écrire des chansons, on voulait transmettre quelque chose. On n'a pas fait ça pour être dans la lumière. Et puis, la lumière vient avec, tu vois, et sans se plaindre et sans cracher dans la soupe, c'est merveilleux d'avoir un public qui te comprend. Moi, ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est pas les trophées, c'est pas les chiffres, c'est pas ce que j'ai vendu, c'est de 15 ans plus tard de remplir une salle où les gens vont chanter mes chansons. Ça me fait pleurer quand j'entends les gens chanter mes chansons. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Quand je vois la nouvelle génération ou des jeunes qui me demandent et qui me disent, ouais, c'est quoi ton conseil, c'est quoi? Je vois des jeunes qui font ce métier, pas forcément ce métier-là, mais en tout cas qui se tuent à essayer de construire un truc sur les réseaux pour être connus. Je vois pas derrière le talent ou je vois pas derrière quelque chose, la création de quelque chose. Et je me dis, oulala, est-ce que vraiment ils savent où ils vont? C'est hyper dur, en fait, à un moment donné. Pourquoi la notoriété, c'est un espèce de costume. Quand tu l'enfiles, tu peux pas l'enlever quand tu veux. Si demain, moi, je décide d'arrêter de chanter, les gens vont encore dans la rue m'arrêter et me dire, ah, Vita, c'est toi, Vita. Tu vois, c'est un truc. Après, il faut vivre avec. Est-ce que les gens pensent à ça quand ils sont influenceurs ou je sais pas. C'est pour ça que moi, c'est vraiment des métiers qui me font peur pour mes enfants. Tu vois, je pense que si tu viens pas apporter quelque chose, créer quelque chose et tu le fais juste parce que tu veux être connu, c'est hyper dangereux, ouais. C'est bien sûr que tu peux péter un câble.
Et comment tu fais, toi, pour te préserver? Tu sais, moi, dans une interview, j'ai vu Mariah Carey dire que par moment, elle a besoin de tout couper pour se retrouver. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est valable pour toi?
Moi, j'ai toujours fait une séparation entre ma vie d'artiste et ma vie de femme. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, j'essaye du mieux possible de couper, de poser mon téléphone et de m'occuper de mes enfants. Le temps que je suis à la maison, je gère mes enfants. Je pars en vacances. Quand je pars en vacances avec mes enfants, j'essaye de ne pas être sur mon tel tout le temps. J'essaye vraiment. Alors, c'est compliqué parce que quand tu es producteur et que tu fais 15 000 trucs en même temps, tu gères tout, c'est notre cas. J'essaye de tout faire en même temps. Mais j'essaye vraiment de faire une séparation. Et, par exemple, j'essaye de ne pas passer 4 heures à regarder. Par exemple, voilà, regarder les commentaires, c'est un truc que je ne fais plus, ça. Je le fais sur certains réseaux. 5 minutes quand je poste un truc. Après, ça y est, je pose. J'essaye vraiment je me suis construit une espèce de carapace qui fait encore une fois que je pense que ça a été un frein aussi dans ma carrière à un moment donné parce que les gens, cette industrie aime les artistes qui justement sont showbiz, sortent, se montrent, se mélangent, créent le lien avec les gens de cette industrie. Moi, pendant des années, j'étais vraiment très dans mon coin, quoi. Et on me l'a fait payer par la suite. Et puis après, aujourd'hui, je fais ce métier depuis des années, donc je connais tout le monde et j'ai compris comment ça fonctionnait. Mais j'ai jamais eu l'envie ni ressenti le besoin, moi, de faire des choses que j'avais pas envie de faire, de sortir, d'aller à tel endroit parce qu'il faut rencontrer telle personne. Je me suis pas forcée à le faire parce que j'avais pas envie de le faire, tu vois. Et je pense que ça fait partie des choses qui m'ont préservée, qui font que, ouais, moi, j'ai le sentiment d'être équilibrée, en tout cas. Les gens, quand ils me croisent, ils me disent ça. Mais en fait, on est des êtres humains comme tout le monde. Si on commence à, à écouter tous les gens qui te font des éloges, c'est faux. En fait, on a tous des défauts, tu vois, on le sait. Se regarder dans une glace, quoi. Moi, j'essaye de le faire, en tout cas.
Et t'as bien raison, Vita. Et moi, je veux que cette fois-ci, tu nous parles de l'époque où ton téléphone sonnait un petit peu moins parce que t'as connu aussi la traversée du désert. Ouais.
C'est
vrai
qu'il dit. Bien sûr, je crois que ce qu'il y a de plus dur, c'est de faire une carrière, en fait. Et encore une fois, moi, c'est ce qui me touche le plus dans ce que les gens me donnent aujourd'hui, c'est de pouvoir encore faire ce métier aujourd'hui. Et voilà, et que ça fonctionne, et de pouvoir faire des concerts et monter sur scène. Je pense qu'à un moment donné, quand tu sors d'un énorme succès, c'est très dur d'enchaîner plusieurs énormes succès l'un derrière l'autre. Il y a très peu d'artistes qui font 1 million ou 800 000 et qui font 2 fois 800 000. Donc forcément, quand tu sors d'un énorme album, mon premier album fait 800 000, tu sais que le deuxième, il ne va pas faire le même score, tu vois. Donc, je savais que le deuxième allait être plus compliqué. Et puis, j'ai breaké parce que justement, j'ai eu besoin, moi, un peu de retourner dans ma campagne, de m'enfermer, de revivre des choses normales. Parce que c'est un espèce d'ascenseur émotionnel, en fait, au début. Le deuxième album sort, il marche moins bien que le premier. Et puis, je refais un break, je rencontre mon mari, et j'ai mon premier enfant. La maternité, ça a été un bouleversement. Je ressens le besoin de breaker encore. Et là, quand je te dis, j'ai senti que les gens me l'ont fait payer dans ce métier, tu sens que, quand je reviens, je sens que, par exemple, vu que je ne reviens pas tout de suite avec un succès immédiat, les programmateurs télé, c'est compliqué. Tu sens qu'ils te disent, ouais, Vita, en fait, on la connaît pas. Moi, j'ai ressenti ce truc-là pendant ma carrière. Les médias, les gens de l'industrie, cette barrière de « on la connaît pas ». Parce que c'est moi qui me suis enfermée un peu dans mon coin parce que moi, j'en ressentais le besoin, peut-être par nécessité, pour me protéger. C'est un métier où tout le monde se connaît, en fait. Donc, à un moment donné, on a besoin des médias. La vérité, sans médias, ton album, il peut être incroyable, personne ne va l'écouter. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai pas fait l'effort de... voilà, quand je venais en télé, je chante et je repars. Parce que moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un de réservé. Les gens prennent ça pour aller hautaine. J'ai souffert de ça beaucoup. On a beaucoup dit ça de moi. Le côté chanteuse à voix, on te met dans une étiquette diva. Alors que je suis tellement l'inverse de ça. Je suis quelqu'un d'archi simple. Et du coup, toutes ces cases cumulées, à ce moment-là, quand j'essaye d'orchestrer mon retour, je sens que... Ouais, les portes, elles s'ouvrent pas. À nouveau, tu vois, c'est pas facile. Et là, je vais rencontrer mon manager actuel et mon ami et associé Saïd Boussif à ce moment-là de ma carrière où je suis un peu en bas, en fait. Et je dois remonter la pente. Et il a fait un travail incroyable avec moi et on s'est bagarré et on a reconstruit parce que lui, c'est quelqu'un qui adore le terrain, qui connaît les médias par cœur. Et on s'est bagarré pour remonter la pente et puis le succès est revenu. Mais pendant des années, faut se battre. En fait, faut se battre pour générer un espèce d'engouement autour de toi pour pouvoir aller en télé défendre un titre. Quand on te met sur une progression, on te dit « Ok, tu vas faire tel prime » et puis tu passes en dernier dans l'émission à 1h du matin, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus personne qui regarde. Bon, tu sens que là, c'est difficile, quoi. En fait, les gens ne sont pas derrière toi. C'est à toi de les intéresser. Donc, à ce moment-là, il faut reconstruire. Les gens s'imaginent que quand tu es là depuis des années, c'est facile. Mais ce n'est pas vrai. C'est un métier où les médias, c'est tes partenaires. Et il faut réussir à recréer un engouement. Je crois que le plus dur, c'est de recréer un succès après avoir été un phénomène. Quand tu arrives, c'est facile. T'as le sentiment que c'est facile. Mais quand t'es une femme, parce que je crois que c'est encore plus dur quand on est une artiste féminine et que ça fait des années que t'es là, se réinventer, recréer quelque chose de nouveau, c'est difficile. En fait, les gens se rendent pas compte. Surtout quand t'es auteur, quand tu veux raconter ta vie et que tu veux vraiment mettre la lumière sur quelque chose de sincère. Je crois que c'est vraiment dur de dépasser le stade du phénomène, en fait.
Tu reviens de loin, Vita, sincèrement.
On est là, hein. On sait pas.
Et sans transition, tu sais, pour rester sur le livre de James une énième fois, elle disait de toi que tu étais très spirituelle aussi. Mm-hmm. Tu vois que toutes les deux, vous étiez en train de contempler la nature et que vous vous posiez plein de questions sur l'humanité, sur la création, etc. Ça, j'ai trouvé ça déjà magnifique, ça, sincèrement. Et ça, c'est quelque chose que tu as toujours eu, toi ?
Moi, j'ai toujours été très croyante, toute petite, bien que je ne vienne pas d'une famille croyante. Moi, je dis que Dieu guide les gens, en fait, et je pense que vraiment, il y a une guidée. Moi, j'ai une guidée sur mon chemin. Depuis toute petite, ma mère ne se l'explique pas. Hein. Elle me dit, toi, tu priais tous les soirs. La foi, en fait, c'est un truc, moi, que j'ai en moi. Et aussi, je pense que ça fait partie de ma force. C'est-à-dire que souvent, je me dis, en fait, on a un créateur. Et en fait, c'est quoi qui compte ? Est-ce que c'est la vie des gens ou est-ce que c'est d'abord que Dieu te voit ? Moi, vraiment, ça fait partie de mon guide de vie. Et Mélanie, quand elle est vraiment, quand vraiment elle a basculé et que ça a été, c'est devenu très présent dans sa vie et que ça l'a sauvée, c'est ce qu'elle raconte dans son livre et dans son documentaire que tu as dû voir. Ouais, c'est devenu très très fort entre nous. Ça a été un lien encore plus fort. Mais c'est vrai que moi, depuis toute petite, j'avais cette foi. Et puis, avec les années, ça n'a fait que grandir. Je pense que c'est soit on le sait, hein, la foi, soit elle grandit, soit elle baisse. Après, à nous de la raviver. Mais vraiment, moi, c'est quelque chose à quoi je m'accroche. C'est quelque chose que je transmets à mes enfants dans l'éducation. Je pense vraiment que, en fait, c'est la seule façon d'être un meilleur être humain. Donc, et à la fois, je suis très tolérante, c'est-à-dire que je suis entourée de croyants et je connais des non-croyants aussi autour de moi. Moi, je peux parler de ça pendant des heures, justement, quand je rencontre des gens qui ne sont pas croyants. J'essaye de comprendre le cheminement parce que moi, je suis vraiment une croyante convaincue, tu vois. Et je préfère parler de foi que parler de religion, d'ailleurs, parce que je trouve que finalement, c'est une force, en fait. Donc, quand tu parles de spiritualité, oui, je trouve que c'est ça, finalement. Et ouais, vraiment, moi, c'est... s'il y a une colonne centrale dans ma vie, c'est ça. C'est-à-dire, tu peux tout m'enlever, mais pas ça.
Tu sais, quand j'avais reçu Ouara Gims, yes, que j'embrasse malheureusement le frangin, eh ben, tu sais, il disait qu'il ne fallait pas juger un livre à sa couverture, tu vois. Mais moi, je suis totalement d'accord avec cet adage. Et il parlait du show business, etc. Et il disait que il y a une chanteuse de variété qui est très pieuse. Bon, il veut pas dire son nom parce qu'il a peur de la griller, etc. Mais il faisait référence à toi. On l'a coupé dans la partie. On l'a parce qu'on voulait pas que tu perdes des contrats. Plus sérieusement.
Mais non, après moi, je me cache pas du tout. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai été éduquée comme ça et que j'ai grandi comme ça, mais je suis très pudique. C'est-à-dire que j'ai toujours peur de, justement, j'ai toujours peur de froisser des gens. Et je pense que c'est pour ça que je trouve que d'en parler publiquement, ça peut être dangereux. Dans le sens où il y a des gens qui peuvent mal le prendre. Il y a des gens qui peuvent voir ça comme même du prosélytisme. Et j'ai toujours peur de ça parce que je pense qu'avant tout, la foi, c'est entre toi et ton créateur. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti comme ça. Je prie, tu vois, on va pas se mentir, je te le dis, tu vois, je prie à personne qui va m'empêcher de faire ma prière à l'heure. Ça, c'est un truc, je le partage pas, je le dis pas, oui, enfin, c'est la première fois que je le dis d'ailleurs publiquement. Les gens qui m'entourent le savent, c'est un truc, c'est personnel, mais je vais pas déranger quelqu'un qui ne prie pas ou je vais aller mettre dans un coin et voilà. C'est quelque chose, j'ai besoin d'en parler beaucoup avec les gens qui m'entourent, mais je trouve que publiquement, ça peut parfois être dangereux. Déjà aussi parce que je pense que je suis pas forcément la meilleure porte-parole. Quand il dit quelqu'un de pieux, s'il parlait de moi, franchement, je suis extrêmement touchée, mais je pense pas pouvoir dire ça de moi, tu vois. Et vraiment, j'ai peur de ça, de tomber dans les pièges de après, les gens vont dire ça. C'est pour ça que j'en parle pas publiquement. Mais en tout cas, quand tu me poses la question, oui, la foi, c'est mon pilier, vraiment.
Eh ben, le message est passé vite. Tu nous fais du bien, sincèrement.
C'est gentil.
Et tu sais, cette fois-ci, moi, je veux que tu nous parles de ton mari, Hicham, qui t'a quelque part sauvé la vie. Tu sais, parce que à travers tes albums, à travers les émotions que tu nous as procurées, t'as toujours dit que t'as connu aussi des relations difficiles.
Bien sûr.
T'avais pas confiance en toi parce que t'as été brisé. Eh, n'ayons pas peur des mots,
ouais,
Vita.
Ouais, c'est vrai.
Moi, je veux que tu nous parles de cette fois-ci ton pilier, celui qui t'a relevé et qui t'a aidé à devenir
qui tu es.
Qui tu es, tout simplement.
Ouais, je crois que moi, je dis toujours que j'aurais aimé me marier très jeune. Je me suis mariée, j'ai rencontré mon mari à j'avais 27 ans. Et à la fois, je sais que Dieu, il a un plan. Et en fait, je crois qu'à 20 ans, j'étais pas prête et j'ai pas rencontré les bonnes personnes. Et parfois, je me dis si je pouvais faire un erase de tout mon passé. Et en fait, non. Parce qu'en fait, ces relations toxiques, parce que c'est une réalité et c'est des choix que j'ai fait moi. J'en parle beaucoup dans mon dernier album parce que je veux parler aux femmes qui m'écoutent. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui écoutent mes chansons en tout cas. Je crois que nous, les femmes, on a un passage dans notre vie. On a un cap où on se cherche et on aime trop aller dans des relations qui nous font du mal. Et c'est nous qui faisons ces choix. Moi, je l'ai compris, ce truc-là, juste avant de rencontrer mon mari. Et je me suis regardée dans une glace et je me suis dit, en fait, soit à un moment donné, tu prends conscience que c'est toi le problème parce que t'es là, tu pleures dans tes chansons, t'es torturée, ok. Mais c'est toi qui es allé dans ces relations-là. Soit tu vas passer ta vie à pleurer. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et il faut pas se mentir, en fait. Faut se regarder, faut analyser ses défauts et se dire, OK, est-ce que c'est pas moi le problème? Moi, c'était mon cas, tu vois. Et je rencontre mon mari à une période de ma vie où vraiment je ne voulais pas du tout. J'étais seule, je sortais d'une histoire très compliquée. Je ne voulais pas me mettre en couple. Et on s'est rencontrés en mai et on s'est mariés religieusement en novembre. Ça allait très, très vite. Ça fait plus de 12 ans qu'on est mariés, on a 3 enfants. Enfin, on en a 5 parce qu'il a 2 filles qui sont comme mes filles. Et en fait, je crois que je l'ai rencontré au moment où j'avais le plus besoin de... En fait, j'étais prête à vraiment à me poser. Et je crois que c'est la première fois dans ma vie que je rencontre un bonhomme. Je rencontre un homme, en fait. Un vrai, qui a réussi sa vie, qui a réussi professionnellement, qui n'est pas là pour Vita. Et ça va très vite parce que je me dis, OK, c'est ça, c'est ce genre de relation-là que tu cherchais, mais tu ne le savais pas. Est-ce que là, tu es prête, on y va? Ou est-ce que tu veux continuer à faire n'importe quoi? Et c'est allé très, très vite, on s'est mariés. Et je crois que c'est vraiment la personne qui m'a donné le plus confiance en moi, bien que je suis encore quelqu'un qui doute beaucoup. C'est un visionnaire, c'est un businessman, c'est un homme qui est très dur, qui est très exigeant. Très honnêtement, je crois que c'est la personne la plus dure que je connaisse, mais c'est quelqu'un de solide. Et en fait, c'est pour la première fois de ma vie, je rentre dans une relation, c'est un amour très solide en fait, qui est bien plus fort que tout ce que j'ai connu. Et en fait, moi, je me vois pas vivre sans lui. Donc, on fait notre vie ensemble, on travaille ensemble. C'est dur, j'ai jamais parlé de lui comme ça. C'est dur de travailler avec son mari, mais à la fois... On ne fait pas la même chose. On a créé un label qui s'appelle Indifférence Prod. On travaille ensemble. Mais lui, en fait, c'est le business. Et moi, c'est l'artistique. Et je m'éclate. Et si tu veux, je lui ai transmis toutes les angoisses que j'avais. Moi, j'étais insomniaque. Je ne dormais pas la nuit. Et en fait, quand je l'ai connu, tout est parti. Et je lui ai mis tout sur lui. Et ça, c'est une force, en fait. C'est le fait d'avoir trouvé ton partenaire, quoi. Et je le souhaite à tout le monde. Et moi, j'ai beaucoup tapé, enfin, tapé. Les gens ont dit, ouais, t'as tapé sur les hommes dans ton premier album et tout. C'est pas vrai, parce qu'à la fois, c'était une déclaration d'amour aussi. Je crois que vraiment, il y a des hommes qui sont solides et il y en a plein. Il faut trouver le bon, quoi, c'est tout.
Shout out à lui, Chaman, sincèrement. Et tu sais, parfois, quand il y a des femmes exposées qui gagnent de l'argent, qui gagnent bien leur vie, etc., c'est aussi dur de trouver leur âme sœur. Pourquoi? Parce que, tu sais, dans la balance, si tu veux,
c'est vrai, la vérité. Ce que tu dis. J'en parlais avec une amie à moi qui est chanteuse justement il n'y a pas longtemps et qui est célibataire et je lui disais, ça doit être hyper dur parce que mon premier album est sorti, j'avais 23 ans et j'ai rencontré mon mari à 27 ans. De mes 23 à mes 27 ans, je me suis dit, comment je vais faire? Parce que tout de suite, tu sens l'espèce de rapport de concurrence avec un homme. C'est normal, c'est dur d'être avec une femme qui a un statut, qui gagne de l'argent, qui gagne sa vie, qui fait quelque chose qu'elle aime. Et puis en plus, une artiste, c'est encore plus dur. Elle est connue. Franchement, c'est pas facile pour un homme. Et d'ailleurs, ça fait partie des raisons pourquoi je suis tombée amoureuse de mon mari. Parce que c'était quelqu'un de l'ombre. J'aurais jamais pu être quelqu'un dans la lumière, tu vois. Alors tu vas me dire, mais toi tu fais un métier de lumière. Mais moi je fais un métier de lumière encore une fois parce que ça va avec ma passion. Mais j'ai pas tout fait pour être dans la lumière. J'ai tout fait pour faire de ma passion mon métier. Et mon mari c'est quelqu'un qui déteste la lumière. Et je trouve que c'est une qualité incroyable chez un homme. J'aurais pas pu moi être avec un artiste impossible. J'ai des copines qui sont avec des artistes ou des footballeurs ou des. Et je trouve que c'est super dur pour une femme.
Tu sais, en te disant ça, je pense à Mary J. Blige. Tu vois, moi, j'avais lu le livre de Prodigy, de Mobb Deep, Père son âme. Et tu vois, il disait qu'à un moment donné, Mary J. Blige, bon, il flirtait un petit peu, tu vois. Et lui, il se sentait gêné.
Mais
parce
bien
que
sûr. Mais je le comprends. C'est hyper dur, en vérité. C'est Mary J. Blige.
Exactement, tu vois. Et merci de te livrer comme tu le fais, hein,
moi,
sincèrement.
J'ai des vrais trucs, là.
Non, mais... Hey.
J'ai peur. Non.
Hey, on est comme ça ici, Vita, sincèrement. Et tu sais, moi, je veux que tu nous parles cette fois-ci de ton comeback. Parce que on a parlé de la traversée du désert. Cette fois-ci, en 2013, tu arrives avec Gims. Tu vois, où tu reviens, tu fais un comeback. Là, moi, je veux que tu me parles une nouvelle fois de cette industrie qui t'avait fermé la porte au préalable et qui, cette fois, je suppose...
En fait, là, c'est vraiment la première pierre. La remontada, elle commence là. Elle commence avec Game Over, qui sort en 2013. L'album Ici et Maintenant. Bon, ce titre, voilà, c'est un. Je l'entends sur section. Je l'ai trouvé incroyable. J'ai trouvé hyper charismatique. J'ai eu un coup de cœur artistique. Je veux absolument le rencontrer. On se rencontre pour faire du son. Et puis, par la suite, on va se retrouver ensemble à travailler.
Sans te couper, qui vous a connecté? Parce que Gims, il était au sommet de son art.
C'était dur de le toucher.
Ah, mais il faut dire la vérité. Il est aussi
il fitait avec personne. D'ailleurs, au début, il a dit, moi, je ne fit pas et tout, mais j'aimerais bien la rencontrer.
Okay.
C'est qui nous a connectés? C'est un ami commun qu'on avait, qui le connaissait, Je sais plus d'où il le connaissait, mais c'est, on avait un ami en commun et il me l'a présenté. On s'est retrouvé en studio à la base. Donc voilà, je sais qu'il va pas fitter et tout, mais c'est pas moi. C'est, l'idée, enfin moi, c'est de le rencontrer déjà. On devait faire du son ensemble. On a fait du son ensemble. Moi, j'étais fascinée par cet artiste. Et je le suis toujours. Et je trouve à moi que c'est peut-être un des artistes les plus puissants, les plus forts de notre génération. Mm-hmm. Et puis de fil en aiguille, il va commencer à travailler avec mon mari sur sa marque de vêtements Vortex. Mon mari l'a connu avant moi. Et donc, bon, ça n'avait rien... Parce que mon mari vient du textile, de base, il ne faisait pas du tout de musique, hein, ça, je ne l'ai pas raconté, mais bref. Et donc, ils ont travaillé ensemble sur Vortex. Donc, on s'est un peu rapprochés, j'ai rencontré sa femme, on est devenus très amis, et puis on a fait Game Over, en fait. On fait ce titre, qui sera le single de mon album. Bon, le titre rencontre un énorme succès à ce moment-là, on fait le clip. Et ça a été vraiment la première étape de ma remontada, j'aime bien dire ça, il y a des gens qui m'appellent le phénix, ça me fait rire, mais c'est vrai que c'est dur, parce que c'est vrai que ça fait 15 ans. Et à partir de là, ouais, je vais reconstruire, il y aura encore un album derrière, et puis je vais revenir avec mon album J4M, juste avant l'album Versus, qui finira double platine, et là, je renoue avec le succès. Mais on a reconstruit pendant quasiment, je ne sais pas moi, il a fallu 6 ans, là, c'est mon 8e album que je viens de sortir, mais les gens ne se rendent pas compte, mais c'est beaucoup, beaucoup de bataille. C'est un métier, faut pas s'arrêter, quoi.
Comment on fait pour concilier sa vie pro avec sa vie perso? Toi qui es tout le temps sur la route.
C'est dur. Je crois que c'est... J'en parle souvent avec d'autres artistes, justement masculins, comme Dadju, parce que nos familles sont très proches. Je le comprends tellement, ce qu'il vit, les allers-retours, la fatigue. Mais quand t'es mère, quand t'es une femme, c'est encore plus dur. Pourquoi ? Parce qu'une femme, quand elle rentre, comme toutes les femmes qui travaillent, qui ont des métiers difficiles prenants, je parle pas que pour les artistes, quand il y a des métiers bien plus difficiles. Mais quand t'es une femme et que tu rentres et que t'as des enfants et que t'as l'impression d'être absente tout le temps, t'as une espèce de culpabilité qui t'envahit. Moi, j'en ai pleuré sur ma tournée où j'étais en FaceTime avec mon fils qui a 12 ans. Je sentais que je lui manquais. J'ai vu ses notes baisser pendant la tournée. Okay. La tournée avec Slimane, elle a duré plus de 3 ans parce que ça a été, elle a été incroyable. Cette tournée, elle a été prolongée. Elle a duré très longtemps. J'essaye, moi, de me sacrifier au maximum. C'est-à-dire, j'essaye de faire en sorte que mes enfants ne souffrent pas de ce que je fais. Donc, par exemple, on part 3 jours. Dès que je sors de scène, la 3e date, je pars en Viano. On remonte en van. On roule toute la nuit. J'arrive à 4-5 heures du mat, à 7 heures, j'emmène les enfants à l'école. Je n'ai pas dormi encore, mais au moins, je suis là pour eux. Tu vois. Je ne les ai pas vus depuis 3 jours. Je les emmène. C'est bête. Hein. Mon mari m'a dit, me voit épuisé. Il me dit, prends quelqu'un. Je lui dis, non, en fait, je vais les emmener. Ce n'est pas grave, je vais me plaindre, mais je vais les emmener. C'est un petit moment, mais au moins, je suis là. Je vais les chercher dès que je ne travaille pas. Je suis avec eux tout le temps. Il y a ce truc de te dire, je suis en train de rater des moments. J'ai eu une petite fille à presque 2 ans. J'ai dû attendre 3 ans avant de pouvoir avoir ma petite, qui est ma 3e, parce qu'on était en tournée, parce que je pouvais pas être enceinte à ce moment-là. C'était hyper dur pour moi d'attendre, parce que je voyais les années passer. J'ai eu ma petite, j'avais 38 ans. Je me suis dit, OK, à un moment donné, c'est ta vie de femme ou c'est ta carrière? Et j'essaye de faire les deux en même temps, et tu peux faire les deux. Mais c'est vraiment beaucoup de sacrifices, parce que nous, les femmes, on veut tout faire en même temps. Et moi, je ne sais pas déléguer. Je ne sais pas laisser mes gosses prendre une nounou tout le temps chez moi qui va s'occuper de mes enfants. Et moi, si la nounou, elle vient, c'est parce que je pars en promo. Quand je reviens, elle repart, tu vois. À la maison, c'est moi la patronne. Et c'est dur de tout faire en même temps. Et j'essaye. Mais, ouais, beaucoup de culpabilité. Ce n'est pas facile.
Et tu sais, aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots, tu gagnes plutôt bien ta vie, etc. Et comment ça doit être difficile de faire comprendre aux enfants que maman est issue d'une famille modeste, que probablement papa aussi. Il y a 50 Cent qui disait dans une interview, c'est son argent. Si son enfant veut de l'argent, il va aller bosser.
Il a raison. Et moi, je suis archi d'accord avec ça. Moi, c'est mon angoisse dans ma vie. J'en parle tout le temps avec mon mari. Je lui dis, on n'en rend pas service, en fait. Il ne faut pas leur faciliter la vie. Alors moi, j'essaye de les responsabiliser énormément. C'est-à-dire que ils ont un peu d'argent de côté. Ils veulent s'acheter un truc, ils savent exactement. Moi, je veux qu'ils sachent combien la vie elle coûte. En fait, tout, quand ils veulent s'acheter une paire de baskets, je lui dis, OK, et combien il te reste? Je lui dis, ça y est, tu te l'achètes toi. Donc, comme ça, en fait, vraiment, on est dans des trucs où je les fais participer à plein de trucs. Je veux qu'ils sachent le prix de la vie. Je leur dis, tu crois que c'est combien la maison, ça nous coûte combien? Ça, un loyer, c'est combien le. Moi, je suis une relou de ça. J'envoie mon fils faire les courses. Je veux qu'il ait la notion des choses. Et mon mari, qui a grandi avec rien, vraiment dans un milieu hyper modeste, qui faisait les marchés, qui est quelqu'un de travailleur de base. Okay. il a eu une enfance difficile et son père lui a appris la valeur des choses. Et je lui dis, regarde, toi, t'es là, tu leur. Et à l'inverse, lui, il a ce truc de leur acheter tout le temps, de vouloir tout le temps les faire kiffer. Je lui dis, mais ils vont jamais trimer. S'ils triment pas, ils vont jamais y arriver. Parce que c'est trop facile. Ça veut dire que quoi, ils vont dépendre de nous. Ils s'inquiètent pas parce qu'ils se disent. Donc à la fois, j'essaye moi de leur construire un empire, mais je veux pas leur faciliter la vie. Ça veut dire que mes belles-filles, elles travaillent avec nous. Mes enfants, je pense que je vais les faire travailler avec nous. Nous, vraiment, on travaille en famille. Je veux qu'ils aient la notion, en fait. Moi, à 14 ans, je travaillais. Je veux que mon fils, il sache ce que c'est. Là, dès qu'il est en âge un peu de. Je le fais bosser avec nous sur des trucs. Je me dis vraiment. Ça va être trop dur parce que je pense que le monde dans lequel eux ils vont grandir il est 100 fois plus dur que le nôtre en fait. Ne serait-ce que les réseaux. Moi, mon fils, il est fan de YouTube. Il me dit, moi, maman, je vais être YouTuber. Je lui dis, mais non, c'est dur, tu vois, parce qu'on n'a pas les mêmes rêves. À la fois, j'essaye vraiment d'être à l'écoute parce que je ne veux pas les frustrer, mais ça fait partie de mes angoisses. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? J'essaye de me dire qu'on va nous les encadrer et leur apprendre vraiment la vie et leur donner peut-être les clés de quelque chose, les faire bosser avec nous et tout, mais ça m'inquiète, ouais.
Et tu sais, je sais que tu es aussi basée au Maroc, tu vas pas mal...
C'est un projet, ouais, de s'installer après.
Est-ce que même socialement, il y a des choses que tu veux faire, que tu veux entamer avec ta famille, hein, même tes petits, peut-être plus tard?
Moi, mes parents sont déjà installés là-bas. J'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas.
Tes parents sont au Maroc?
Ouais, mes parents vivent au Maroc depuis quelques années et ils sont tellement heureux. Non pas que je, encore une fois, que je veuille quitter ce pays et tout, parce que je comme plein de gens veulent partir, partent et disent ouais, on peut plus la vie. Si moi c'est pas ça vraiment, j'aime tellement ce pays. Mais je trouve que c'est un autre climat de vie. Moi, j'ai pour projet aussi d'être moins dans la lumière dans les années qui viennent. Je l'ai dit, cet album c'est mon dernier album solo. Je pense que je ferai encore beaucoup de scènes, de collabs, etc. C'est pas exclu, je m'arrête pas. Mais je pense que je vais lever le pied sur les promos, le fait de... Voilà, quand tu es dans la lumière tout le temps et que tu cours, il y a ce truc où les années passent et j'ai envie aussi, tu vois, de profiter de ma famille. Donc, ouais, ça fait vraiment partie des projets.
Et tu sais, toi, tes enfants, tu ne les exposes pas.
Ouais, j'essaye de vraiment les exposer très peu, ouais. Après, attention, hein, je ne juge personne. Franchement, chacun fait ce qu'il veut sur ses réseaux. Mais c'est vrai que, encore une fois, moi, j'ai des réseaux parce que ça fait partie de mon métier. Je suis sûre que si demain, j'arrête tout, je regarderai les réseaux, mais je pense que j'aurai plus de compte privé. Tu vois ce que ouais. J'aurai pas de compte en privé. C'est un truc où le truc de se montrer... Moi, ça fait partie de mon métier. C'est-à-dire que bah, mon public veut savoir aussi, veut entendre, veut voir ce que je fais. C'est un vrai travail d'image aussi. Je prends du plaisir à le faire, on ne va pas se mentir. Mais c'est quand même beaucoup d'énergie. Il faut s'impliquer, il faut proposer des choses, il faut faire du contenu. Moi, j'essaie toujours d'éviter ça, le fait de se montrer, de paraître ostentatoire, que ce soit dans ce qu'on gagne, dans le matériel. J'essaie de pas... Et de plus en plus, là, en vieillissant, je me dis franchement... Est-ce que vraiment, tu vois, je poste cette photo-là comme ça et tout? Non, franchement, j'essaye vraiment d'être plus dans un truc de cool, quoi, de partager un peu des moments de vie où je suis, ce que je fais, un peu de glam et tout, parce que je suis comme ça, je suis une femme, j'aime la mode et tout. Mais ouais, j'ai du mal. Je me dis que c'est pas facile, qu'on a tous rien eu dans notre vie et que, en fait, ça peut être. Il y a des gens qui peuvent mal le prendre quand tu vas montrer une montre comme ça. Pourquoi, en fait? Et puis, encore plus parce qu'on est dans un pays où il se passe des trucs de ouf. Moi-même, je l'ai vécu. Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on montre aussi, ouais. Et vraiment, mes enfants, par exemple, je passe énormément de temps avec eux et tout. Forcément, il y a des moments, il y a des trucs drôles. Je vais le filmer, mais je vais pas montrer leur visage. En fait, mes enfants, ils ont pas choisi d'être la mère de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un de connu. Je vais pas moi leur infliger ça qu'ils marchent dans la rue et ça m'est arrivé, hein. Ah, t'es pas le fils de Vita et tout, alors que j'avais pas montré leur visage, parce que les gens savent que j'ai des enfants et bien évidemment, mais j'ai envie qu'ils soient libres, même à l'école j'ai pas envie que les gens leur cassent la tête, donc ouais, j'essaie de les préserver. Je pense que c'est normal, quoi, en tant que parent.
Et tu sais, dans les clips, on te voit tourner, la tournée avec Slimane, l'album avec Slimane, tout a cartonné. Moi, je suis content pour toi, sincèrement. Mais moi, cette fois-ci, je veux que tu nous parles, comment dire, des inconvénients liés à ton métier, liés à ta fonction. Tout à l'heure, tu nous disais que tu étais tout le temps sur la route et que y a, comment dire, tu ne pouvais pas vivre tous les moments avec tes enfants. Mm-hmm. Quoi d'autre?
Je pense que... Et c'est toujours difficile de parler de ça parce que ça peut paraître, les gens peuvent le prendre comme si tu te plains alors qu'on fait un métier de privilégié, c'est une réalité. C'est-à-dire que se lever le matin et vivre de ta passion, moi il y a des jours où je suis KO, je suis fatiguée, Et je me lève, je me dis, arrête en fait, lève-toi. Tu vois, tu peux pas te plaindre parce que tu fais un métier qui est merveilleux. Moi, plus les années passent, plus que je trouve que... Enfin, moi, vraiment, les gens dans la rue et tout, ça m'arrive jamais. Ça ne m'est quasiment jamais arrivé, à part à l'époque, dans les débuts, comme je te disais, où tu sens que ça génère un peu de haine quand t'es vraiment dans un gros succès. Après, avec les années, moi, les gens sont extrêmement bienveillants avec moi. Je peux pas dire, je souffre pas du tout de ça. Moi, les gens, quand ils me croisent, ils sont adorables. Je pense qu'après, il faut faire des concessions, c'est-à-dire que la liberté tout court, elle est réduite quand t'es connu. La notoriété, ça génère ça. Ce truc de, parfois, il y a des endroits, bah, tu peux pas y aller sans sécu. Il y a des choses que tu peux pas faire solo. Pourquoi pas? Parce que tu te la racontes. C'est pas pour ça que je dis ça. Parce que, par exemple, je vais aller dans un parc d'attractions avec mes enfants. Je sais que je vais pas pouvoir profiter des activités comme n'importe quelle maman. Parce qu'en fait, les gens vont me demander des photos. C'est normal. Les gens, ils me voient, ils ont envie de me parler. Mais ça m'est arrivé combien de fois avec mes enfants quand ils étaient plus petits, que mes enfants comprenaient pas. Ils te parlent, tes enfants, il y a des gens autour de toi. C'est un truc de tout est plus compliqué, en fait. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, il faut se cacher, il faut être discret, il faut. Bon, et moi, j'adore faire ça. J'adore les parcs d'attractions. J'adore sortir avec mes gosses. J'adore être madame tout le monde. Moi, je fais mes courses toute seule. Les gens me disent, mais pourquoi tu commences? Moi, j'adore aller faire mes courses. J'adore aller dans un supermarché, choisir mes trucs et tout. Forcément, les gens, ils vont venir. Il y a des gens qui vont te prendre en photo à ton insu. Ça, c'est un peu relou, tu vois. Et ça fait partie de ce métier. Faut l'accepter. Soit tu prends une sécu 24-24 comme plein d'artistes et tout. Moi, ça, je refuse de faire ça. J'aime pas ça. J'aime bien être comme tout le monde. Alors, je me cache un peu, j'essaye de faire doucement. Quand les gens me demandent une photo, je dis toujours oui, mais je dis discrètement. Mais c'est vrai que tu as moins de liberté. Ou par exemple, quand tu vas à l'étranger, où personne ne te connaît, si tu redécouvres ce truc de « Ah, je peux faire tout ce que je veux, je peux sortir pas maquillée, je peux, tu vois ?» C'est bête, mais c'est des petites choses qui te manquent un peu. Quand tu fais ce métier, que tu as des enfants, tu as l'impression que... ouais, il faut réfléchir à tout. Voilà, des trucs mes enfants font. Ah maman, j'aimerais trop qu'on aille faire ça. Je peux pas y aller avec eux, moi. Ils vont aller avec leur grande sœur. Mais il y a des trucs, je sais que je peux pas le faire. Ou alors si je le fais, il faut que je prenne une sécu, etc. Et je veux pas, j'ai pas envie de m'enfermer dans cette vie-là. Donc j'essaie de m'organiser pour partager un maximum de moments avec eux. Mais je dirais que ouais, ça diminue un petit peu ta liberté. Après, si c'est le prix à payer, la vérité, pour faire ce métier qui est ta passion, franchement, ça va, c'est pas cher payé. Hein. Moi, je trouve que voilà, on ne peut pas se plaindre de ça.
T'es généreuse, Invita.
Bah, la vérité, quand t'as un public qui te soutient depuis tant d'années, je le dis souvent, je sais que je me répète, mais je te jure que je crois que vraiment c'est dur de durer dans ce métier. Il y a peu de gens, en fait, qui c'est difficile, en fait, de traverser les années, d'essayer de se renouveler. Et ben moi, je trouve que le public me donne cette chance. Et en fait, s'il n'y a pas le public, il n'y a rien, tu vois. Donc, j'essaye de l'être, en tout cas, de leur rendre.
Et tu le fais bien. Sincèrement. Et tu sais, encore une fois, tu as la tête sur les épaules. Tu disais tout à l'heure, tu as commencé à jobber très jeune, etc. Moi, je veux savoir comment tu as sécurisé ton argent.
Ah, moi, j'ai toujours mis de côté. Je crois que cette peur de manquer, elle vient de mon père que j'ai vu trimer, qui se disputait avec ma mère. Moi, ça m'a traumatisée. Petite, ma mère, elle me dit « Ah ouais, et tout, c'est vrai qu'on se disputait beaucoup. » Et en fait, quand tu es gamin, tu regardes tes parents beaucoup. Bah, quand t'as des parents qui se disputent, tu t'en rappelles, quand t'as des parents...
C'était lié à la condition financière ?
Ouais, complètement. Ouais, moi, j'ai vu mon père trimer parce que mon père, il a vécu des moments difficiles. Il a récupéré une affaire qui fonctionnait pas, il s'est endetté. Et je l'ai vu, en fait, remonter la pente pendant des années. Donc, j'ai vu beaucoup mes parents manquer, se disputer pour ça. Et je crois que ça a créé une espèce de crainte dans ma tête de manquer. Et... j'ai pris beaucoup de mon père qui est très cartésien et dès que j'ai gagné des sous, je mettais tout de côté. On m'a dit en plus, attention, tu vas voir, c'est un métier, tous les gens, quand tu réussis, 2 ans après, ça marche plus, t'as plus d'argent, tous les artistes, ils se cassent la gueule. Donc vraiment, on m'a tellement mis en garde. Dès que j'ai signé mon premier contrat, mon album est sorti, j'ai acheté un appartement tout de suite, j'ai acheté une voiture, j'ai mis de côté, je mettais de côté. Et ma comptable, elle me disait, mais vraiment, tous les artistes étaient comme toi. Bon, ça, c'est quand j'étais seule. Pendant des années, j'étais comme ça. Et après, j'ai rencontré mon mari qui a une toute autre philosophie de vie. Et en fait, mon mari m'a appris, il m'a transformée. C'est-à-dire que lui, il voit les choses différemment. Et il a perdu son papa jeune. Et okay. Ça l'a beaucoup marqué. Et il m'a toujours dit, en fait... On travaille pourquoi si on travaille pas pour kiffer aussi, tu vois. Moi, par exemple, ma motivation principale quand je suis KO, je suis en déplacement, je travaille pour les vacances avec mes enfants. C'est-à-dire, nous, on fait rien, mais par contre, les vacances, c'est genre sacré. On part toujours en famille. Je pars pas moi toute seule avec mon mari. J'emmène mes enfants, mes belles-filles. On est toujours en famille ensemble. Et c'est vraiment les moments où après, je recharge les batteries. Après toute l'année, je charbonne et tout, mais je me dis voilà, c'est ça le kiff dans une vie. Et lui m'a un peu appris à, tu vois, à me dire, en fait, on va pas mourir avec. Et vraiment. Et moi, j'ai vraiment ce truc de, mon père, c'est un Français, il m'a pas du tout élevé comme ça. Lui, il m'a élevé dans un truc de, faut être prévoyant, faut mettre de côté, tu vois. C'est vraiment très français, ça. Et à la fois, j'ai une maman qui est méditerranéenne, qui est sienne, elle qui est hyper dépensière. Moi, j'ai pris de mon père. Et mon mari, lui, vraiment, pas du tout comme ça. Et puis, je suis devenue comme ça avec lui. Tu vois, aujourd'hui, je me fais des vrais kiffs. Mais toujours, quand même en me disant ok, il faut que je construise un patrimoine pour mes enfants, tu vois, j'essaye vraiment de construire quelque chose pour eux, parce que comme je te disais, je me dis qu'est-ce qu'ils vont faire si demain au moins on leur laisse quelque chose, ils partent pas avec zéro, quoi.
C'est bien, Vita. Et ce sera ma dernière question. Tu sais, parfois on peut avoir l'impression que certains artistes sont hautains, mais c'est plutôt une protection, tu vois, parce que dans ton activité, vous êtes toujours lié au stress, lié à la pression, lié à tout ça, et vous êtes finalement obligé de vous protéger un minimum. Bien et sûr. Ce message, enfin, ce comportement-là peut être aussi mal perçu.
Ouais, moi, j'ai vraiment souffert de ça. Par exemple, moi, je suis vraiment, c'est le bon exemple, dans le sens où pendant des années, mais que ce soit médiatiquement ou que ce soit même des gens du métier, tu vois, des artistes que je croise, j'ai souffert beaucoup d'une image, elle est hautaine, elle est froide, elle se la raconte, alors que je suis tellement pas comme ça. Pourquoi? Parce que je suis sauvage. C'est-à-dire que quand je connais pas, je suis dans mon coin. Je déteste moi rentrer dans une pièce, parler fort, que tout le monde me regarde. Et moi, en fait, vraiment, j'essaye toujours de... Je suis discrète, en fait, et je suis plutôt réservée. Quand je connais les gens, bien sûr, je suis très ouverte et tout. Je suis plutôt sociable, mais... Et vu que c'est un métier où tu rencontres énormément de gens, et quand tu connais pas les gens, ben moi, c'est ma nature, je suis comme ça. Et du coup, parce que je suis une femme chanteuse, etc., les raccourcis, c'est égal, elle se la raconte. Pendant des années... quand je rencontrais les gens en vrai, ils me disaient, mais qu'est-ce que t'es mieux en vrai, qu'est-ce que t'es sympa. Et ça, c'est vraiment le truc que j'ai le plus entendu. Mais qu'est-ce que t'es cool, qu'est-ce que t'es sympa. C'est marrant, je te voyais pas comme ça. Bien sûr que les gens, ils ont une mauvaise perception. Déjà aussi, parce que quand t'es dans une image où t'essayes toujours de renvoyer une image qui est assez belle, assez esthétiquement soignée et tout, il y a ce truc de les gens te voient en télé, t'es apprêtée, etc. Dans la vie, t'es comme tout le monde. Et après, ouais, moi, j'ai vraiment souffert de ce truc parce que je suis sauvage et que je vais pas vers les gens naturellement que je connais pas. Et j'en ai trop souffert, franchement. C'est pour ça que je fais un documentaire, parce que je veux que les gens voient l'intérieur. C'est pas un documentaire sur Vita, le succès, les échecs, c'est pas que ça. C'est vraiment un documentaire sur c'est qui derrière l'artiste. Parce que les gens ont une mauvaise perception de moi, mais de ouf, tout le temps. Et aujourd'hui, ça me fait rire, parce que quand je les croise, les gens me disent tout le temps la même chose. Mais t'es cool. Et en fait, j'ai toujours été comme ça. Hein. C'est juste que peut-être, vous ne me connaissiez pas bien. Peut-être, je ne l'ai pas assez montré. Mais ça fait partie du jeu, en vérité. Et les gens n'auront jamais toujours un avis cool sur toi. Il y aura toujours des gens qui te détestent. Ça, moi, je l'ai accepté, ça fait longtemps. Et je n'essaye pas de satisfaire tout le monde. Mais quand t'as compris ça, déjà... C'est une bonne partie du game.
En tout cas, Vita, au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions pour ta venue.
Et c'est moi qui vous remercie.
Pour cette transparence, honnêtement, tu es une frangine, tu fais du bien, tu parles, tu redistribues et bonne route.
Merci beaucoup.
Tu brilles sincèrement.
Merci, plaisir, vraiment. Merci, des belles questions.
T'as été parfaite, sincèrement.
Merci beaucoup.
C'était le tiers. Et qui est 500, tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec ma homegirl, j'ai nommé Vita pour We Hustle. Mes paroles valent cher. Peace!
We Hustle, baby.